VOA Afrique,
le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 9 juin 2017. Morgane Guerriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, nouvelle attaque dans le nord du Mali, 3 casques bleus guinéens ont été tués à Kidal. Violence dans le Kasaï en République démocratique du Congo, l'ONU demande la mise en place d'une mission d'enquête internationale. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump accuse l'ancien directeur du FBI de mentir. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU accuse Kinshasa de ne pas enquêter sérieusement sur les violences au Kasaï et exige une enquête internationale. Nathalie Barge.
Zeid Raad al-Hussein a enjoint le Conseil des droits de l'homme de mettre sur pied une commission afin d'enquêter notamment sur les exécutions sommaires, les meurtres d'enfants, le recrutement d'enfants et les violences sexuelles. Le Kasaï est secoué depuis septembre par la rébellion de Kamuinan Sapu, chef traditionnel tué en août dernier lors d'une opération militaire après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. Ces violences qui impliquent miliciens, soldats et policiers ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1 300 000 personnes. Le Conseil des droits de l'homme a par ailleurs établi l'existence de 42 fausses communes, mais sa porte-parole, Ravina Shamdazani, avertit que leur nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Les deux experts de l'ONU tués en mars cherchaient à prouver l'existence de ces charniers.
Nouvelle perte dans les rangs des casques bleus au Mali. 3 morts et 8 blessés légers, c'est le bilan d'une attaque à la roquette contre le camp de la MINUSMA à Kidal. Cette attaque et d'autres cas de règlement de comptes multiplient à Kidal alors que le retour de l'armée malienne et des autorités administratives locales est annoncé par le comité de suivi de l'accord. Kassim Traoré nous en dit plus depuis Bamako.
Depuis 72 heures, il y a un regain de tension dans la ville de Kidal. Certains civils ont été tués, leurs maisons incendiées pour d'autres saccagées par des hommes armés non identifiés. Cette situation est consécutive au retour annoncé de l'armée à Kidal avec l'administration. Et tout le monde sait que le retour de l'État à Kidal n'est pas du goût de la CMA. C'est dans cette même foulée que le camp de l'aménagement à Kidal a été la cible de tirs intensifs de roquettes et mortiers. Les informations préliminaires indiquent qu'une dizaine d'obus de différents calibres ont ciblé le camp de l'aménagement. Dans un premier temps, 5 membres du personnel de l'aménagement ont été légèrement blessés. Par la suite, des obus ont atterri dans les quartiers avoisinants du camp de l'aménagement. Peu après, c'est une position de la force onusienne qui a été attaquée à l'extérieur du camp. C'est ce qui a entraîné la mort de 3 casques bleus et 3 autres blessés. L'aménagement condamne dans les termes les plus rigoureux ces attaques et la mise en danger de la population civile. Elle exhorte les parties présentes à Kidal d'assumer leurs pleines responsabilités pour identifier les responsables afin de les traduire devant la justice. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et c'est dans ce contexte que grondent les casques bleus tchadiens ayant servi au Mali. Ils fustigent le non-paiement de leur salaire et de leurs primes auprès de leur gouvernement et des Nations Unies. Sont concernés 2 contingents de 1275 hommes déployés dans le cadre de la MINUSMA entre 2014 et 2016. Et c'est le même sort qui attend le 3e contingent tchadien actuellement sur le terrain. C'est du moins ce qu'assure leur délégué qui annonce une opération « Brûler le béret bleu » de l'ONU. Le contingent tchadien, on le rappelle, est le 3e plus important de la MINUSMA, après le Bangladesh et le Burkina Faso. Et Nigeria, un militaire a été condamné à mort pour avoir tué un homme soupçonné d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram. Les groupes des droits de l'homme nigérians accusent régulièrement les militaires de violences contre les civils, notamment d'arrestations arbitraires, tortures et exécutions extrajudiciaires. Centrafrique, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est déclaré préoccupé par l'instabilité l'instabilité généralisée dans le pays, où l'ONU redoute un embrasement en raison d'un regain d'affrontements à connotation religieuse et ethnique. Je suis préoccupée par l'instabilité généralisée et par la persistance des violations des droits de l'homme en République centrafricaine, de même que par les attaques ciblant les soldats de la paix des Nations Unies dans le sud-est du pays, écrit M. Guterres dans un rapport d'activité de l'ONU en Afrique centrale, parvenu donc aujourd'hui à l'AFP. Soldat lynché au Ghana, le soldat Mahama a eu droit à des funérailles nationales. Aujourd'hui, il a été tué le 29 mai alors qu'il faisait son jogging matinal. Le jeune homme ne portait pas son uniforme et avait gardé sur lui son arme de service, le confondant aux yeux des riverains avec un voleur. Les rebelles sud-soudanais revendiquent une embuscade menée jeudi contre un convoi se dirigeant vers Djouba, une attaque qui aurait fait au moins 15 morts selon les autorités. C'est notre réponse aux attaques constantes menées contre nos bases, a déclaré l'armée de libération du peuple soudanais en opposition. Crise alimentaire en Afrique de l'Ouest. Quelques 3 millions de personnes ont besoin d'aide immédiate dans 8 pays de la région. Telle est l'alerte lancée par les ministres de l'Agriculture de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces victimes de pénuries vivières ont besoin d'assistance pour renforcer leur résilience, particulièrement durant la période de soudure de juin à août, indique l'UMOA. Les ministres se sont également préoccupés de la prévalence de la malnutrition aiguë globale des enfants dans le nord du Mali et le sud-est du Niger en proie aux attaques djihadistes. Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema a été transféré de sa prison de Lusaka vers un centre de détention de haute sécurité, d'après sa page Facebook. Accusé de trahison pour avoir entravé le déplacement du convoi du chef de l'État, son rival Edgar Lungu, il est incarcéré depuis près de 2 mois. Et puis migration vers l'Europe, quelques 930 personnes ont été secourues au cours depuis hier au large de la Libye. C'est ce que rapportent les gardes-côtes italiens qui coordonnent les opérations.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Donald Trump contre-attaque et remet en cause l'intégrité de James Comey suite à l'audition hier de l'ancien directeur du FBI devant la commission du renseignement du Sénat. Les précisions de Dilly Dico.
Le président américain Donald Trump accuse l'ancien directeur du FBI, James Comey, dans un tweet partagé ce matin, d'avoir fait fuiter des documents. Malgré tant de faux témoignages et de mensonges, nous découvrons que Comey organise des fuites, a-t-il écrit. Cette première réaction du chef de l'exécutif américain à l'audition de James Comey donne un aperçu de la stratégie choisie par la Maison-Blanche pour contenir le scandale des révélations de l'ancien directeur du FBI. Révélations détaillant les pressions qu'aurait exercé le président américain pour influer sur l'enquête portant sur les interférences russes. La ligne directrice est claire, ne tenir compte que de certaines parties du témoignage de M. Comey et dénoncer les accusations les plus accablantes. Ainsi, les défenseurs de la Maison-Blanche retiennent en premier lieu l'admission par Comey d'avoir fait fuiter à la presse, via un ami, les notes sur ses rencontres avec Donald Trump. L'avocat engagé par le président pour gérer la crise, Mark Kassovitz, a insinué que Comey pourrait être poursuivi pour ses fuites non autorisées. Et une source a indiqué qu'une plainte pourrait être déposée dès la semaine prochaine.
Conséquence des législatives en Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May va former un nouveau gouvernement qui, a-t-elle martelé aujourd'hui, mènera à bien le Brexit, malgré la perte par son parti conservateur de la majorité absolue au Parlement et les appels à sa démission. Les détails avec Tatiana Mousseau.
C'est avec une très courte majorité que Theresa May, après ses législatives anticipées, ira négocier la sortie de l'Union européenne avec les 27 à partir du 19 juin. Les conservateurs sont en tête du scrutin mais ont perdu une douzaine de sièges, tandis que l'opposition travailliste en a gagné une trentaine selon ses résultats quasi définitifs. Le taux de participation, près de 68%, est le plus élevé pour des législatives au Royaume-Uni depuis 1997, même s'il est inférieur à celui du référendum sur la sortie de l'Union européenne de juin 2016. Le parti europhobe UKIP s'effondre, ayant perdu son unique siège. Son leader, Paul Nuttall, a annoncé sa démission. Jeremy Corbyn, le chef des travaillistes largement réélu dans sa circonscription au nord de Londres, a immédiatement appelé Theresa May à la démission. La livre sterling a immédiatement chuté à l'annonce des projections, tant face à l'euro que face au dollar, et resté très affaibli vendredi. Le commissaire européen français Pierre Moscovici a jugé que Madame May avait perdu son pari, son homologue allemand Gunther Oettinger, considérant pour sa part que Londres était désormais un partenaire faible pour négocier la sortie de l'UE.
Lutte contre le groupe État islamique en Syrie. Des combattants kurdes et arabes ont progressé ce vendredi dans un quartier à l'ouest de Raqqa, principal fief syrien de l'organisation djihadiste, où la coalition internationale sous commandement américain a intensifié ses raids aériens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, la Minute Éco.
Le géant pétrolier Shell a repris ses activités sur le terminal de Fort Cadus au Nigeria après plusieurs mois de fermeture dues à des attaques répétées par des groupes armés dont les Vengeurs du Delta du Niger. Ces rebelles réclament une meilleure redistribution des richesses du pétrole. Des négociations entre eux et le gouvernement apaisent pour l'instant la situation dans la région du Delta. L'Afrique du Sud a interrompu ses importations de poulet en provenance du Zimbabwe après une récente épidémie de grippe aviaire qui a frappé un élevage zimbabwéen. Les producteurs sud-africains évaluent à 140 millions le nombre de leurs poulets en danger si le virus venait à se propager sur leur territoire. Le Mozambique et le Botswana voisins ont également décrété un embargo sur le poulet zimbabwéen. En Côte d'Ivoire, lancement par la Chambre de commerce et d'industrie de la semaine du Kroubi, prévue du 21 au 25 juin dans la ville de Bondoukou à Zanzan. Objectif, faire découvrir les opportunités économiques de la région aux entreprises régionales et internationales. 10 000 visiteurs sont attendus, dont des délégations des États-Unis, du Japon, Soudan, de la Russie, France et Tunisie.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La route vers la Coupe d'Afrique des Nations 2019 commence ce vendredi.
La première journée qui débute ce soir par un Libye-Seychelles et Soudan-Madagascar. Et demain, deux gros chocs en perspective. Burkina Faso, Angola, Nigeria, Afrique du Sud, Cameroun, Maroc et la République démocratique du Congo qui accueille son voisin de Brazzaville à Kinshasa, les Diables Rouges. Le point sur cette rencontre avec Thierry Kambundi de notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM.
Revenus de leur stage du Maroc dans la nuit du jeudi 8 juin 2017, les Léopards de la RDC ont repris du service à Kinshasa dès jeudi soir en prévision du match de ce samedi face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville. L'objectif pour nous reste la victoire afin d'entamer dans les meilleures conditions les éliminatoires de cette CAN 2019, a dit Flora Ibenge, le sélectionneur principal des Congolais de Kinshasa. Leurs adversaires arrivent ce vendredi dans la capitale de la RDC pour ce derby du fleuve Congo. Sébastien Minier, le tout nouveau sélectionneur des Diables, voudra venger son mentor Claude Leroy, car lors de la dernière confrontation entre les deux sélections nationales, les Congolais de Kinshasa l'avaient emporté 4-2 après avoir été menés 2-0. C'était en quart de finale de la CAN 2015. À l'époque, il était l'adjoint de Claude Leroy. Kinshasa, Thierry Kambouli de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et dans la zone Europe ?
Oui, à suivre ce soir, un choc dans le groupe A à Stockholm, Suède-France, le Portugal en déplacement en Lettonie, Pays-Bas, Luxembourg et la Belgique qui ira en Estonie.
Éliminatoire pour la Coupe du Monde 2018 dans la zone Amérique du Nord et Centrale.
Les Américains retrouvent le sourire après une victoire la nuit dernière 2-0 contre Trinidad et Tobago. Un résultat qui permet aux États-Unis de se relancer et d'occuper la troisième place après la victoire 3-0 du Mexique contre le Honduras. Le choc, ce sera dimanche au stade Azteca de Mexico entre Mexicains justement et les Américains.
Et puis, victoire de prestige en amical de l'Argentine.
L'Argentine du nouveau sélectionneur Sampaoli a battu le Brésil 1-0 à Melbourne. Face à des Brésiliens qui avaient laissé plusieurs cadres au repos, comme Neymar, les Argentins dominateurs en première période l'ont emporté sur un but de Mercado juste avant la mi-temps.
Transfert ?
Le FC Metz a ouvert son mercato estival en recrutant l'attaquant sénégalais sénégalais Ibrahima Niang, 18 ans, international des moins de 20 ans. À Metz, qui a obtenu son maintien dans l'élite française à 3 journées de la fin, il retrouvera Ismaïla Assar, lui aussi passé par Génération Foot, une académie que soutient le club lorrain depuis une décennie.
Enfin, NBA, peut-être le titre la nuit prochaine pour Golden State.
Et oui, c'est ce soir, Golden State qui mène 3-0 face à Cleveland. Le dernier match peut-être ce soir, puisque Golden State n'a besoin que d'une seule victoire pour empocher son deuxième titre de champion NBA en 3 ans. LeBron James et ses coéquipiers sont en danger ce soir à domicile pour ce quatrième match face à des Warriors, toujours invaincus depuis le début des playoffs. Les Warriors ont signé leur 15e victoire consécutive mercredi en améliorant leur propre record NBA.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est de retour avec vous, Morgan Diriek. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le CICR appelle à la libération de 2 membres de son personnel enlevés suite à l'attaque de leur convoi dans l'est du pays par des hommes armés non identifiés. Solange Niamoulissa a joint Aurélie Lachan, chargée des relations publiques et porte-parole du CICR pour l'Afrique.
Nous sommes en contact avec les ravisseurs, nous avons eu des communications avec eux pour nous assurer qu'ils sont bien traités et nous appelons leur libération immédiate, qu'ils soient libérés sains et saufs, que les ravisseurs facilitent leur retour.
Est-ce que vous connaissez les circonstances de leur enlèvement ?
L'événement a eu lieu mercredi matin, dans la matinée. Nos équipes étaient en train d'effectuer des distributions de vivres et d'articles ménagers. Les équipes fournissent également un appui à l'hôpital de la zone. Elles étaient en route et elles ont été interceptées et 2 de nos collaborateurs ont été enlevés.
Vous avez décidé d'arrêter les activités dans le Nord Kivu. Quand est-ce que vous comptez reprendre tout justement les activités ?
Alors nous espérons une résolution rapide de cette situation. Nous déplorons cet enlèvement et nous déplorons aussi le fait que ce sont les populations qui vont pâtir de cette situation, des populations que nous étions en train d'assister. Pour l'instant, nous avons interrompu toutes les activités dans cette zone. Je rappelle que 5000 familles qui avaient été affectées par des conflits et les personnes qui les accueillaient étaient en train d'être assistées par le CICR. Nous avons dû suspendre ces activités. Cette situation pourrait affecter de manière durable les populations qui sont dans cette zone.
Quelle est la situation humanitaire pour le moment au Nord Kivu ?
Alors, de manière générale, la situation humanitaire est très difficile pour les populations qui ont été affectées par des années de conflit, qui sont affectées par des déplacements à répétition. Le CICR est présent dans cette zone depuis longtemps. Nous faisons des assistances en vivres, en articles ménagers, en soins de santé, en protection. C'est le genre d'activité qui met en péril l'action humanitaire qui est très très importante pour les populations qui sont dans le besoin dans cette zone. On espère vivement que nos collègues pourront être libérés le plus vite possible, c'est clair.
Aurélie Lachan, chargée des relations publiques et porte-parole du CICR pour l'Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et nous partons maintenant au Burkina Faso. L'opposition et la société civile entendent faire barrage à la création d'une entité électorale contrôlée par le gouvernement. Puisqu'une relecture du code électoral, le gouvernement propose un tout nouveau texte qui provoque un tollé dans le pays. De Ouagadougou, les explications de notre correspondant Issa Napon.
C'est un chef de file de l'opposition volontaire qui est monté au créneau ces dernières heures pour dénoncer le nouveau projet de loi électorale à préparer sans y associer l'opposition politique ni la société civile. La conséquence la plus grave de ce projet concocté par le gouvernement est qu'elle consacre un saut en arrière et un véritable recul démocratique, s'offusque Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique burkinabé.
C'est vrai qu'on avait reçu un questionnaire au mois de décembre, mais on nous avait dit qu'une fois les réponses renvoyées, on organisait une grande rencontre de concertation. Ils n'ont pas fait ça, ils sont enfermés dans leur laboratoire et ils ont sorti un texte qui, du plus, pose un problème sur le plan du droit parce que nous sommes dans le cheminement de l'adoption d'une nouvelle constitution qui balise justement certains aspects du code électoral. Et d'ailleurs, le code lui-même fait maladroitement référence à cette constitution-là et emploie des concepts et des termes qui relèvent de cette constitution. Par exemple, il parle de cour constitutionnelle, ce qui n'existe pas pour le moment dans notre ordonnance juridique. Tout ça montre bien qu'il y a une intention qui est malsaine.
Imposer un nouveau code électoral non consensuel reviendrait à légitimer une réaction en bloc de l'opposition politique et susciter une mise en garde claire de la société civile, Hassène Hervé Ouattara, leader des citoyens africains pour la Renaissance.
Si pour l'article 37, parce qu'à ma connaissance, Blaise Compaoré était élu démocratiquement aussi, ça n'a pas empêché les gens de sortir de faire partie. Nous disons qu'il faut faire très attention parce que c'est notre article 37 et cette fois c'est plus grave. S'il ne croit pas, il peut continuer là-dessus. Et ce code électoral-là, nous prions Dieu qu'il continue dans la logique qu'ils veulent faire là. Ça nous faciliterait vraiment la tâche.
Plusieurs dangers entourent ce projet de loi en ce qu'il met en balance le vote de Burkinabé de l'étranger et ouvre la voie aux fraudes électorales, souligne l'opposant maître Gilbert Ouelo-Draogo, président de la DFRDA.
Là, nous avons un projet de code électoral qui parle de l'autorité administrative indépendante, mais qui ne dénomme pas cette autorité administrative. Nous avons le deuxième point, c'est le vote des Burkinabés de l'étranger. Nous constatons que dans ce projet, il est question de faire voter les Burkinabés à partir de 2020. À partir de 2020, ça peut être 2022, ça peut être 2050, ça peut être 3000 même. Troisième élément, nous avons eu cette expérience de l'utilisation des actes de naissance pour voter au Burkina Faso, même des livrets de femmes qui en son temps ont favorisé une grande fraude électorale. Et c'est à la suite de combats, de luttes et d'acquis que nous sommes revenus sur toutes ces questions et qu'il a été décidé donc qu'il fallait la carte d'identité biométrique. Et nous sommes surpris que cette nouvelle proposition réapparaisse et nous ne savons quel est le but qui est visé.
Le retour à une organisation des élections au Burkina Faso filtrée par le gouvernement consacrerait de fait la mort de la Commission électorale nationale indépendante et pourrait entacher la crédibilité et la fiabilité des élections à venir, s'inquiète l'opposition politique burkinabé. Une opposition politique qui s'est rangée derrière son chef de file, Zéphirin Diabré, qui entend, avec l'aide de l'ensemble des syndicats et de la société civile, faire barrage à cette volonté du gouvernement de faire passer ce nouveau projet de loi électorale. Issa Napo Ouagadougou pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Et retour sur les législatives en Grande-Bretagne. La première ministre Theresa May annonce la formation d'un nouveau gouvernement qui mènera, dit-elle, à bien le Brexit, bien que son parti conservateur ait perdu la majorité absolue et à l'issue des législatives. Donc, le professeur Ian Begg, chercheur à l'Institut d'économie et de sciences politiques de Londres, a expliqué à Salwa Jafari les raisons de ce revers.
Bon, au début, Theresa May avait dit « Je reste au gouvernement jusqu'à 2020. » Donc, je laisse passer les 5 ans normaux du Parlement. Mais au mois d'avril, elle a constaté qu'il y avait une avancée très forte sur le Parti travailliste et elle a demandé des élections sous le prétexte qu'elle souhaitait avoir un mandat pour le Brexit. En fait, beaucoup de gens croient que c'était surtout parce qu'il y avait cette avancée sur les travaillistes et croient gagner sans difficulté. En faisant ça, elle a fait demi-tour. Et quand on fait demi-tour dans la politique britannique, ça ne joue pas. Ce n'est pas acceptable normalement. Deuxième chose, pendant la campagne, elle a proposé des réformes des politiques de soins pour les personnes âgées. Et elle voulait surtout que les personnes âgées cotisent beaucoup plus pour payer ces services. Ça s'est très mal passé avec les gens qui soutiennent normalement le Parti conservateur, donc les personnes âgées.
Theresa May va devoir gouverner sans une majorité au Parlement. Cela veut dire que les conservateurs ne pourront pas faire passer leur législation. Comment voyez-vous cette nouvelle dynamique?
Bon, ce qu'elle cherche à faire, c'est d'avoir une sorte d'entente. C'est même pas une coalition avec les députés de l'Irlande du Nord, les soi-disant Democratic Unionists, qui représentent le groupe protestant en Irlande du Nord. C'est pas quelque chose qui risque d'être très, très stable parce que il suffit d'avoir 3 ou 4 membres de parti de Theresa May, les conservateurs, qui disent non, on n'accepte pas ça et on a du mal à faire passer les lois. Donc, j'estime que ça peut marcher pendant quelques semaines, voire même quelques mois, mais d'ici la fin de l'année, ça risque de s'écraser.
Dernière question, Theresa May a promis ce matin qu'il n'y aura pas de retard dans les négociations avec l'Union européenne. Va-t-elle être capable de tenir sa promesse, à votre avis ?
Elle va être capable de tenir sa promesse de négocier le Brexit, oui. Mais jusqu'à la fin de cette année, je crois que ce sont surtout des questions techniques qui vont avoir lieu. Il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des élections en Allemagne. Ces élections sont prévues au mois de septembre, mais normalement en Allemagne, on prend 2-3 mois après pour former des coalitions. Donc pour avoir un avis très solide des Allemands, il faut attendre la fin de l'année. Et pour moi, ça donne quand même un peu de marge de manœuvre aux Britanniques pour régler les difficultés intérieures.
Professeur Yann Beg, joint à Londres. Les suites de l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat par le président Donald Trump. De nombreux États américains et grandes villes entendent bien respecter les termes de l'accord. C'est le cas de la Californie et Cabadou.
Los Angeles en Californie est célèbre pour le grand nombre de véhicules sur ses routes. On pourrait n'y voir que la pollution. Malgré les apparences, cet État a les lois les plus dures des États-Unis en matière d'environnement. C'est ce que nous explique Clara Horowitz de l'Université de Californie.
That clean tech sector is booming.
En fait, nous avons un secteur économique qui prospère plus que dans tout autre État. Nous avons aussi des politiques climatiques ambitieuses en place.
La Californie entend bien poursuivre l'application de l'accord de Paris signé par l'administration Obama et dont l'objectif est de réduire d'ici à 2025 les émissions de gaz à effet de serre de 28% en dessous de leur niveau de 2005. Cet engagement reste une priorité d'après Michael Blomberg, ancien maire de New York.
Le gouvernement américain peut être sorti de l'accord, mais les Américains y restent engagés et nous atteindrons nos objectifs.
Même assurance du côté de Jerry Brown, gouverneur de la Californie, qui a signé avec le président chinois Xi Jinping un accord dans ce sens.
It's highly significant that the governor of California can meet.
Il est très significatif qu'un gouverneur rencontre le président chinois pour parler du défi principal de notre temps, à savoir le changement climatique, et que nous nous engagions ensemble aux prises de décisions nécessaires sur le processus de transformation d'énergie.
Une prise de position qui ravit Shen Yat de l'Université de la Californie du Sud.
Après Hawaï, le prix de l'électricité est le plus élevé en Californie. Elle est en deuxième position également pour le prix de son essence.
L'État de Californie compte poursuivre des politiques environnementales fermes, car selon des experts, cela stimulerait également l'économie.
Power.
Voilà, et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, présentation Morgane Yeriek. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.